Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Au cours de l'émission précédente, nous avons abordé la difficile question de l'inspiration de la Bible. Elle est affirmée par la tradition chrétienne et donne sens aux Écritures pour les croyants. Au lieu d'une approche académique de cette question, vous nous avez proposé, père Alain, de relire le premier chapitre de la Genèse qui relate la création de l'univers et de l'homme. L'étude de ce texte peut en effet nous aider à mieux comprendre comment Dieu s'y prend pour parler aux hommes à travers les écrivains bibliques et leurs écritures. J'ai tout de suite envie de vous poser une question. Dieu parle-t-il finalement dans ce texte que nous sommes en train de lire ?
Alors Dieu parle, mais nous avons que la forme de l'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu est devenue écriture. Alors c'est une parole devenue écriture et qui est une parole inspirée. La tradition depuis toujours, aussi bien dans le Nouveau Testament et le monde juif, et aujourd'hui, a maintenu cette idée que la parole de Dieu était une parole inspirée. Alors, à quel trait on peut reconnaître cette inspiration ? Certainement à plusieurs, mais j'en donne peut-être un ou deux maintenant. La première marque d'inspiration, je dirais, c'est la beauté des textes, c'est-à-dire une qualité littéraire qui montre bien que, au sens presque littéraire, on pourrait dire, ce sont des auteurs inspirés. Qu'est-ce qui nous permet de dire, mais que derrière, il y a Dieu qui inspire ? Alors ça, c'est le mystère de la foi, c'est-à-dire ça, quelqu'un qui n'est pas croyant n'acceptera pas cette vision, mais Dieu inspire en quel sens ? Eh bien, je dirais, ici, il y a quelque chose qui est tout à fait original, qu'on ne trouve pas dans les textes de Mésopotamie, c'est la non-violence du Dieu créateur. C'est-à-dire, dans tous les textes de Mésopotamie que l'on connaît, Dieu crée dans la violence, dans le meurtre, dans l'assassinat de certains dieux, une violence entre les dieux eux-mêmes qui se disputent. Dans notre texte, vous avez la parole. La parole, Dieu dit. Dieu parle et Dieu n'a aucune action violente qui pourrait laisser entendre qu'on est influencé par des textes mésopotamiens. Au contraire, on sait que nos auteurs connaissent les textes mésopotamiens qu'ils ont rencontrés quand ils étaient en Mésopotamie. Mais là, cette parole de Dieu, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, il y a une solennité dans cette parole. Oui, ça c'est un signe, on pourrait dire, d'une véritable inspiration.
Alors nous allons reprendre la lecture de notre texte. La dernière fois, nous avons lu le premier jour de la création. Et Dieu va ensuite mettre quatre autres jours pour créer successivement le ciel, la terre, la mer, les végétaux, les astres, les animaux marins et les oiseaux. Nos auditeurs reliront sûrement avec bonheur le récit poétique de ces quatre jours. Mais nous allons reprendre maintenant la lecture au sixième jour, au verset 24. Dieu dit: que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit : Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, sixième jour. Cette partie du texte relate principalement la création de l'homme et de la femme. Cela rappelle le second récit de création des chapitres 2 et 3 de la Genèse qui se déroule au jardin d'Éden. Pourquoi y a-t-il deux récits de création, Père Alain ? Qu'est-ce qui les différencie ? Qu'est-ce qui les harmonise ?
Alors la grande différence, c'est évidemment que le récit que nous lisons maintenant, que nous étudions, c'est un texte qui est centré sur Dieu. C'est Dieu qui est au cœur de ce texte. Du début à la fin, Dieu est le personnage central. L'homme n'est pas au premier plan. Il est au premier plan par rapport à la nature, par rapport aux animaux, mais c'est Dieu seul qui structure ce texte du début à la fin. Ce n'est pas un texte qui serait orienté vers l'homme, même si la partie de l'homme est importante, elle est nouvelle, mais c'est Dieu qui est au cœur. Alors que dans les chapitres 2 et 3 qui évoquent la création d'Adam et Ève, c'est l'homme qui devient au cœur de l'histoire. Et donc, ce n'est pas du tout la même thématique. C'est-à-dire, il y a une progression entre ce chapitre. Ils ne sont pas contradictoires les uns envers les autres. Non, chacun développe une thématique. Ici, c'est celle de Dieu. Et puis, avec Adam et Ève, ça sera plus le rapport de l'homme pour, en faveur de Dieu. Ici, c'est l'homme face à Dieu. Et c'est là qu'on peut s'attarder, parce qu'il y a tellement de choses étonnantes dans ce texte. Vous avez certainement noté, comme moi, puisque je sais que vous êtes subtil pour interpréter les Écritures, est-ce que vous avez noté que, depuis le début, on dit de toutes les créations « et Dieu vit que cela était bon » et on ne le dit pas de l'homme. Ce n'est qu'à la fin, mais c'est plus pour concerner uniquement l'homme, ce n'est qu'à la fin qu'on dira Dieu vit ce qu'il avait fait et que c'était très bon, mais c'est plus uniquement l'homme. Donc, de l'homme, il n'est pas dit qu'il était bon.
Il y a un superlatif quand même qui est introduit à ce moment-là. Oui, très bon.
Mais c'est la totalité qui était très bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais essayer de l'expliquer. Beaucoup de choses. Hein. C'est un texte difficile, passionnant, justement. Les grands textes, c'est souvent comme ça. C'est des textes à la fois obscurs. Mais en même temps, quand on arrive à toucher le cœur des textes, on peut dire beaucoup de choses. Alors, je dirais au moins quatre points, si vous voulez, que je vais reprendre. Il est clair d'abord que ce texte a été écrit par des gens qui connaissaient les traditions de Mésopotamie. C'est clair que cette idée des dieux qui, à un moment donné, s'interrompent, parce que vous avez remarqué, Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Dieu s'arrête dans la création. La création se développe avant dans une sorte de linéarité solennelle et parfaite. Ici, tout à coup, Dieu s'arrête. Faisons l'homme à notre image. Et donc, il y a un arrêt. Pourquoi cet arrêt ? Et quand on connaît les textes de Mésopotamie, on sait que vous avez des grands mythes mésopotamiens qui racontent qu'à un moment donné, il y a des hiérarchies en Mésopotamie. Nous, on n'a qu'un Dieu. Dieu est unique. Eux, ils ont des dieux. Et il y avait des grands dieux et des petits dieux. Et les petits dieux, ça ne vous étonnera pas, c'est ceux qui faisaient tout le travail. Et un jour, les petits dieux se sont révoltés contre les grands dieux, parce qu'ils étaient fatigués de travailler. Et selon le mot qu'on trouve en Mésopotamie, on dit ils portaient le seau, c'est-à-dire le seau dans lequel ils mettaient les briques pour construire les palais des princes. On a projeté, bien sûr, sur Dieu des choses qui existaient. Il y avait de grands palais. Et donc, les petits dieux se sont révoltés. Et à ce moment-là, les dieux, les grands dieux, se sont réunis. Ils ont délibéré. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, tout à coup, on se dit, mais oui, il y a pu avoir une influence de cette tradition. Dieu délibère. Maintenant, la délibération de Dieu n'a aucune violence. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Alors, moi, j'aurais envie de dire peut-être quatre choses. Chacun pourra choisir son interprétation. Une première interprétation, ça serait l'influence de Mésopotamie que je viens d'évoquer. Certainement que ça a pu les influencer dans cette façon, mais de reprendre et de traduire avec leur vérité, leur force, quelque chose. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième aspect, c'est pas moi qui l'invente, c'est un des grands maîtres juifs qui s'appelle Rashi, qui était un vigneron de Troyes, le XIIe siècle, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Rashi avait compris, comme moi, comme nous tous qui sommes biblistes, mais qui avons eu devant nous des maîtres, Rashi avait dit, mais pourquoi il y a ce pluriel et pourquoi il s'arrête? Et il avait trouvé cette explication en disant, quand Dieu a créé l'homme, il a pris peur que les archanges soient jaloux. Et donc, il les a invités et il leur a annoncé à eux et il les a associés à la création de l'homme, de sorte qu'ils ne soient pas jaloux que Dieu crée quelqu'un à son image. C'est quand même formidable, ça. Et donc, il y aurait cette dimension-là. Il y a une troisième interprétation possible, je crois que celle de Rashi, elle est très vécue par les Juifs, ils aiment bien l'expliquer comme ça. Il y a une troisième interprétation qui serait de dire, puisque nous, on lit la Bible de façon canonique, hein, c'est-à-dire on lit la Bible intégralement, c'est-à-dire avec le Nouveau Testament, c'est le Père, le Fils et l'Esprit qui dialoguent et qui créent l'homme en s'associant. Et l'esprit que vous avez évoqué tout à l'heure dans le texte, l'esprit qui planait sur les eaux, c'est le Ruach Elohim, le souffle de Dieu, les trois, ils délibèrent. Les pères de l'Église ont développé cette thématique. Et une quatrième interprétation, plus récente, mais qui me plaît assez, je veux dire, vous me direz après si vous êtes d'accord avec moi, ce serait l'idée que, au fond, au moment où Dieu crée l'homme, il délibère, non pas avec les deux autres personnes de la Trinité, mais il délibère avec l'homme lui-même. Il lui dit, faisons l'homme ensemble. Moi, je fais la part que je suis seul à pouvoir faire. Je crée l'homme. Mais à nous deux, mettons-nous ensemble pour parfaire cette création, pour humaniser l'homme de manière beaucoup plus grande. Et donc, moi, j'ai ma part. Toi, fais ta part. Et Dieu dit à ce moment-là, c'est formidable, mais on voit qu'après, le déluge va venir, montrera que ça n'a pas marché. L'homme n'a pas pris sa part. Et donc, et si on voulait aller plus loin, il y aura le déluge. C'est-à-dire, cet homme que Dieu a créé, il est détruit. Il ne reste plus que Noé, et puis je fais un dernier accord, au moment où Noé va ressortir, il va faire un sacrifice à Dieu, et Dieu va dire, je regrette d'avoir fait ça, je ne recommencerai plus. Mais les Juifs disent, attention, l'arc-en-ciel, qui est le signe que Dieu ne recommencera pas, ce n'est qu'un demi-cercle. Or, qui est responsable du deuxième demi-cercle? C'est l'homme. Et donc, si l'homme ne prend pas à cœur ce demi-cercle pour gérer le monde, il peut y avoir encore le déluge qui revient.
Ce qui plaiderait sur votre quatrième interprétation, à mon modeste niveau, c'est peut-être que dans le deuxième récit de création, l'homme est créé progressivement. Oui, Dieu modèle d'abord l'Adam dans la terre, puis ensuite il lui donne le souffle de vie. Et puis un peu plus tard, il va lui créer une aide en vis-à-vis, la femme. Donc il y a cette espèce de progression, puis c'est pas fini. Après, il va y avoir l'homme qui va se construire, continuer à se construire au jardin et en dehors. Mais je ne sais pas si...
Oui, on peut faire cette relation, mais avec quand même la grande différence que cette construction de l'homme, elle est très littéraire aussi, et très narrative au fond, jusqu'à la révolte, hein, parce que la révolte va apparaître à la fin, on aura l'occasion sans doute un jour d'en reparler, mais ce sont quand même des textes très différents.
Alors, dans le texte qu'on vient de lire là, sur la création de l'homme et de la femme, il y a quelque chose de complètement stupéfiant. On n'y pense plus parce que c'est des phrases qu'on répète sans arrêt, mais c'est stupéfiant de dire l'homme et la femme sont créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Comment l'auteur du texte pouvait-il dire quelque chose comme ça? D'où tirait-il ça?
Non, je pense que c'est là qu'on peut aussi évoquer l'inspiration, hein, cette inspiration qui est même audacieuse, que l'homme a quelque chose de divin en lui. Hein. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses mémoire? à peine le fis-tu moindre qu'un dieu. C'est le psaume. Hein. À la fois, qu'est-ce que l'homme quand tu en fasses mémoire, et à peine le fis-tu moindre. Non, l'homme est grand. L'homme est grand et il est à l'image de Dieu. Il n'est pas Dieu. Attention, c'est-à-dire, ça serait une erreur de vouloir avoir ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil. Non, l'homme, il est à sa place, mais il a un rôle important et il est associé. On peut d'ailleurs le remarquer, vous avez lu tout à l'heure le texte et vous avez répété solennellement, et c'est très beau. Dieu dit, Dieu dit, Dieu parle. Et puis tout à coup, après la création de l'homme, qu'est-ce que nous avons ? Dieu les bénit. Et leur dit, Dieu n'est plus quelqu'un qui monologue, mais Dieu parle à l'homme, Dieu leur dit. Et à ce moment-là, nous sommes entrés dans le dialogue entre Dieu et l'homme. Dieu leur dit, c'est Dieu le Seigneur, c'est Dieu le Maître, mais il leur confie une mission à remplir. Et donc, c'est pour ça que cette manière de présenter la création comme étant une sorte de partage entre Dieu et l'homme est très forte. Hein. Et on pourrait aller beaucoup plus loin en évoquant le drame de la Shoah, parce qu'au moment de la Shoah, beaucoup de Juifs, en particulier Hans, vous avez sans doute entendu parler du grand livre de Hans Jonas, un Juif qui a écrit « Dieu après la Shoah ». Et Hans Jonas, quand il évoque l'assassinat de 6 millions de Juifs, se pose la question « Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu ? Est-ce qu'il ne pouvait pas intervenir ?» Ou est-ce qu'il ne voulait pas intervenir? Et la réponse de Hans Jonas, c'est de dire « Dieu ne pouvait pas intervenir ». Parce que quand il a créé l'homme, il a posé face à lui un être libre. Et un être libre qui pouvait contrecarrer sa propre sa vision du monde. Et Dieu sait si l'homme le fera souvent. Et donc Hans Jonas dit « Non, Dieu ne pouvait pas intervenir. C'est l'homme qui pouvait intervenir. » Parce que l'homme était invité au dialogue avec Dieu, et Hans Jonas dit Dieu, au moment de la mort de tous les Juifs, il était présent dans les justes. Tous les justes qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs, c'était Dieu qui agissait par eux. Et Dieu ne pouvait agir que par eux, parce que Dieu laisse l'homme libre.
C'est vrai que quand on évoque la Shoah ou les grandes tragédies de l'humanité, on peut se demander où est cette image et cette ressemblance de Dieu. Et d'abord, pourquoi y a-t-il une image et une ressemblance? Quelle est la différence entre ces deux termes?
Ils sont assez proches l'un et l'autre, c'est-à-dire la langue hébraïque aime bien mettre des parallèles de textes. Donc il y a souvent des dédoublements de mots qui, d'une certaine manière, disent à peu près la même chose. Il n'y a pas une signification, même si les théologiens ou les pères de l'Église, surtout, vont vouloir repérer dans chaque mot une signification. La langue hébraïque permet ce dédoublement de mots pour dire un peu la même chose. C'est la richesse d'une langue parlée et d'une langue très, on pourrait dire, très réaliste au fond, pas très philosophique comme nos langues modernes. Voilà, c'est ce que je dirais un peu sur cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'il faut retenir cette idée de est-ce que vraiment l'homme créé fait perdre à Dieu une part de sa puissance? C'est une grande question. Et Jésus nous dira un peu ça quand même. Jésus, il est mort, il est venu, il a donné sa vie pour nous. Et finalement, c'est les hommes qui l'ont mis à mort, mais il nous a apporté le salut dans son partage de vie, d'une certaine manière.
Eh bien, nous allons interrompre notre entretien, qui continuera la semaine prochaine. On est au terme donc de cette deuxième émission consacrée à l'inspiration divine de la Bible. Beaucoup reste à dire. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être écoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.